Salut, c'est Aoudé de Montpellier. Bah, c'est parce que je viens de voir que vous parlez aujourd'hui des Yes Men et c'est génial parce qu'il faut vraiment que tout le monde voit ce film. C'est fantastique, c'est trop drôle, mais en même temps, qu'est-ce que c'est vrai et putain, ça fait peur. Ciao.
Oui, bonjour. Oui, je viens d'entendre l'émission sur Dewoo, enfin les émissions sur Dewoo. Et puis il me vient à l'esprit à propos du cher président coréen là de Dewoo qui vit en France tranquillement. Je voudrais bien savoir la position de notre cher garde des Sceaux Dominique Perben vis-à-vis de Cesare Battisti qui je crois est toujours en fuite, hein. Et je voudrais savoir un peu si quand est-ce qu'il pense s'occuper un peu du cas du directeur de Dewoo là quand même, parce qu'avec tous les détournements il y a quand même un dossier à charge là par rapport à Battisti. Il y a quand même autre chose à vérifier. Alors au boulot le ministère de la justice là quand même. À bientôt.
Je trouve l'idée vraiment très bonne, et je me rappelle en 77 on avait eu la même idée avec des copains mais bon, on n'avait pas osé, c'est vrai, hein, c'est un peu. Mais alors par contre, ce qui me rend, mais alors, vraiment triste, c'est de voir que des étudiants puissent croire quelqu'un qui leur dit qu'il va recycler de la merde afin de la donner à des gens. Bon, déjà, s'il y a des étudiants en chimie, biologie, ils peuvent tout de suite comprendre qu'on ne peut pas recycler de la merde. Mais les mecs, c'est vraiment, alors disons, je veux dire, c'est vraiment du bas de gamme en étudiant, là. Hein. On est, je sais pas, mais ils sont pas réveillés, les mecs. Hein. Mais par contre, l'idée est fumeuse. Elle est très bien, ça... C'est bien parce qu'ils essaient de réveiller les gens, c'est bien. Moi, je suis quoique c'est vrai qu'on n'est pas si loin de ça en fin de compte. Hein. Bon, voilà. Allez, bonsoir, au revoir, salut.
Merci pour vos messages. Vous savez d'où je les écoute, vos messages. Eh bien, de Sictivkar. C'est exactement au milieu de nulle part, c'est-à-dire dans la République des Comices. Ah, c'est où c'est la République des Comices? Eh bien, si vous regardez Moscou, si vous regardez l'Oural, ben c'est plus proche de l'Oural que de Moscou. Et qu'est-ce que je fais là? Eh bien, je m'apprête à remonter vers Vorkuta. Et pourquoi Vorkuta? Alors là, ce sera le cercle polaire. Eh bien, parce que nous espérons rencontrer les nénettes. Les nénettes sont en train de transhumer avec leur reine. On espère rencontrer les mineurs de Vorkuta, il y a encore des mineurs de fond à Vorkuta, et aussi la mémoire du goulag, la mémoire des Zeks, c'est-à-dire les prisonniers du goulag, et puis aussi le théâtre au goulag. Il y avait du théâtre dans les goulags. Voilà où nous en sommes. Alors, quoi de commun entre là où je me trouve et là où vous êtes? Eh bien, au moins un point, l'international. L'international, oui, le chant international, qui est un chant français, écrit par un Français, qui a fait le tour du monde et qui, bien sûr, sera joué et chanté après-demain, à travers toute la Russie, à l'occasion de la fête du 1er mai. Il m'a semblé intéressant de célébrer ce chant radieux. Mais auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base ici au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Daniel et toute l'équipe. Elle est fabuleuse cette émission d'aujourd'hui. Tout le monde baisse la tête quand il s'agit de politique ou d'organismes tels que l'OMC et le FMI. Je suppose que les deux dirigeants français qui ont proposé récemment à leurs ouvriers de partir sur l'île Maurice ou en Roumanie ont assisté au séminaire auquel ce monsieur a animé son show en se faisant passer pour un représentant de l'OMC. À propos d'esclavage, puisque bientôt nous en serons de nouveau là, M. Schœlcher doit se retourner dans sa tombe. Il faut rappeler que tous les pays sont amenés à être de véritables négriers. Saviez-vous qu'en Afrique du Nord, en Algérie, depuis plus de 2 ans, les appels d'offres publiques octroient à des sociétés étrangères, dont chinoises, des marchés de construction? Les ouvriers arrivent par bateau, comme à l'époque du commerce triangulaire. Et ces ouvriers ne sont pas payés, c'est normal, ils viennent des prisons chinoises. Comme nous le savons, nous cautionnons tout ceci, nous sommes autant responsables que nos politiques. Voilà, je crois que c'est important de le rappeler. Au revoir.
Je viens d'entendre les infos et il y a un Yasmin là qui vient de s'exprimer. Là. Il se fait passer pour un ministre qui dit que les fonctionnaires sont très contents de travailler pour le lundi de Pentecôte. Ah, c'était pas un Yasmin? Ah bon, alors c'est grave alors.
Hey, je viens d'entendre l'émission sur les Yes Men, là. Mais en fait, en France, on est trop cons. Bah ouais. Chirac, Raffarin, Hollande, Juppé, tous les euros, oui. Bah, c'est des Yes Men. Ah non, parce que vous croyez vraiment qu'ils pensent les conneries qu'ils nous disent? Mais évidemment, non. Et c'est aujourd'hui que je m'en aperçois, putain. C'est tous des Yes Men. Bah, ils veulent nous faire réagir, c'est normal. Oh, génial.
Bon, d'accord. Bon, je vous avoue, je vous fais une confidence. Hein. Je l'accorde. Ils ont vraiment, vraiment mis la barre haute, là, les Yes Men, en parlant de, du rachat des droits de vote, par exemple, la question de l'esclavage ou les McDo demi-recyclés. Mais bon, il faut pas oublier que le boss des boss en la matière, c'est quand même Jacques Chirac, le petit président. Bah lui, il est pas venu faire son speech devant des avocats internationaux, mais il est plutôt venu les faire, là, le jeudi 28, aujourd'hui. Il est passé 2 heures à Toulouse, puis il les a fait donc ce speech devant les ouvriers de Toulouse. Et il a soutenu que la 380, eh bien, bah, c'était l'aboutissement, en quelque sorte, un aboutissement européen. Eh bien, moi je vous dis, hein, les Yes Men, vous avez quand même encore du travail. Vous avez quand même du boulot, hein, avant d'atteindre le niveau pathétique de notre président. Allez, ciao, c'était Olivier du Gers, bye.
Salut, c'est Daniel Mermet avec l'International. Là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Celle-là, vous la connaissez?
Oh, je connais toutes. C'est dommage que je n'ai plus de voix pour ça.
C'est en français, là.
C'est la lutte finale pour nous et demain la terre, je ne peux pas, sera le genre humain. C'est la lutte finale pour nous et demain la terre. En camp de concentration ne donnait rien, j'allais boire de l'eau à la fontaine pour donner le sein à ma fille.
Pas du tout. La dame n'a pas apprécié du tout en passant devant notre bureau. Alors qu'on écoutait la 587e version de l'International en préparant cette émission. La Rombière, BCBG, est passée le cul pincé. Toute ma jeunesse, a dit le type qui venait réparer, par contre, la machine à café. La machine à café la plus internationale qui soit, puisque nous jouxtons les bureaux de Radio France Internationale et des journalistes du monde entier se retrouvent à notre machine à café. Évidemment, l'international n'évoque pas la même chose pour celui qui a fui la dictature argentine et le polonais qui a échappé à l'occupation soviétique. Ça n'a pas le même sens pour le béninois d'aujourd'hui qui se souvient de son pays d'Afrique marxiste par rapport à la dame de la rédaction vietnamienne qui se souvient des bombardements américains. Y a-t-il un autre chant, un autre hymne dans l'histoire du monde qui évoque autant à la fois d'émotions, de regrets, d'amertume, qui soit à la fois la nostalgie d'une utopie qui renvoie au naufrage de la grande illusion, qui rappelle le cauchemar des tyrannies totalitaires? S'agit-il d'un monument ringard, pompeux, comme une statue déboulonnée qui rouille dans un hangar poussiéreux, ou alors une petite braise qui vacille et qui persiste malgré tout? C'est une histoire, en tout cas, qui est partie d'ici, de notre France il y a à peu près 130 ans. Et c'est cette histoire que nous allons évoquer jusqu'à 18h dans la base J'y suis, avec des archives, avec des élus à l'Assemblée nationale que Anne Rioux a rencontré, et puis des gens comme Monsieur le maître Garçon, et aussi l'historien Marc Ferraud, qui a écrit une petite histoire de cet hymne, l'International. Voilà, jusqu'à 18h sur Inter, là-bas si j'y suis, nous ne sommes rien, soyons tout.
Le monde va changer de base. Nous ne sommes en rien, soyons tout.
C'est la lutte finale pour nous et demain. International, c'est pas une blague.
Vive la révolution! Vive!
Marc Ferraud, on vous voit comme un érudit, un historien érudit, mais on ignore que vous êtes un dangereux bolchevique, en fait.
Ah oui, oui, ouais. Surtout que j'ai jamais été communiste.
Oui.
C'est comme ça qu'on peut être un pur bolchevique.
Voilà. Alors, et là, j'ai la preuve. Mm-hmm. Vous avez écrit une histoire de l'International, du chant, de l'hymne l'International.
Oui. Alors, comme les aspirations que les révolutions russes et autres espéraient satisfaire, ces aspirations se sont fourvoyées. Mais c'est pas parce qu'elles se sont fourvoyées que ces espérances n'étaient pas légitimes. Pour remonter le courant, si vous voulez, quand les éditions Noésis m'ont demandé si je voulais faire quelque chose sur l'International, la chanson, j'ai bondi de joie et j'ai fait ce petit livre.
Et alors, l'International est toujours là pour bander les énergies et donner du cœur au ventre.
Voilà. Absolument.
Vous avez chanté l'International dans votre jeunesse?
Pas tellement, non, je crois pas. Moi, je chantais plutôt la Marseillaise. J'étais parce que l'idéal international semblait progresser dans le sens de l'histoire. Et puis ensuite, comme je l'ai dit, ça s'est fourvoyé. Les communistes russes ont fait de cet idéal une catastrophe, une demi-catastrophe, disons plutôt. Alors, comme moi, je ne pardonnais pas ni au parti ni à la CGT, j'avais pas de raison de chanter l'International. Mais maintenant que cet idéal est menacé, alors peut-être que je chanterai.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison sans eux en son cratère. C'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, où l'esclave debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'international sera le genre humain.
Combien de femmes, d'hommes ont chanté l'International à travers le monde, à travers notre histoire récente, et dans combien de sens différents. Chanter l'International n'a pas eu le même sens entre le moment de sa création et le sens que ça a pu avoir, je sais pas moi, dans l'URSS de Staline ou la Chine de Mao Tse-tung. C'est tout à fait différent. Et ce chant, qui est toujours là, bel et bien vivant, eh ben, est chargé de toute cette histoire-là. Hautement politique, symbole hautement politique que l'International, qui concerne le peuple, les peuples que nous sommes, mais aussi bien les élus de ces peuples et du nôtre. Puisque, voilà, on se met à l'honneur nous-mêmes, l'international est né en France. Alors, on va à l'Assemblée nationale, on va dans les couloirs de l'Assemblée nationale avec Anne Rioux, tâcher de demander à nos chers élus ce que représente pour eux l'international.
Vous voulez bien vous présenter ?
Moi, du temps, député de la Dordogne. Le communiste, j'étais membre du parti.
Voilà. Toujours ?
Toujours. Toujours. Vous voyez bien, je suis peut-être le seul député qui a à sa boutonnière la mémoire de Lénine. Ni Dieu, ni César, ni Trudeau. Mais vous savez, c'est l'air que si je le dis, l'air. C'est un chant remarquable. Et je la sais bien, vous savez, je la sais. Pas complètement. Debout les damnés de la terre, debout les forces de la faim. C'est l'éruption de demain. Nous faisons table rase, debout, 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 debout. Monde va changer de... Ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale. Groupons-nous dès demain. L'international sera le genre humain. Voilà. C'est un chant remarquable parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça si par hasard on l'appliquait tel que le chant le dit. Et je souhaite qu'un jour on le fera. Voyez donc en Italie. On vient de changer de gouvernement, c'est bien qu'on le fait confiance.
C'est un chant d'espoir, d'accord, mais c'est un chant antimilitariste aussi.
Oh, mais c'est un beau chant, oh, c'est formidable, oh non. C'est un peu comme la Marseillaise. Croyez-vous que la Marseillaise, c'est pas joli? C'est magnifique, la Marseillaise aussi. Vous savez, ça a été écrit il y a longtemps, hein. Et j'espère que ça vivra longtemps, longtemps, cette chanson-là.
C'est une passion que vous avez pour ce chant, monsieur?
J'étais tout petit, vous comprenez. Je vous parle de ça, moi, lorsqu'il y avait l'occupation. Nous avions les Allemands chez nous. Eh bien, je me souviens, à l'école, on ne chantait pas l'international, mais celui qui avait été le premier de la classe, il montait les couleurs. Alors, on lui faisait chanter la Marseillaise, et Maréchal, nous voilà. Et alors, Maréchal, nous voilà, chantez pas. Et l'instituteur, avec sa canne, nous tapait sur la tête en disant, il faut chanter. Alors, on faisait semblant de faire marcher les lèvres, mais j'aurais bien aimé chanter l'international.
Lourd, lourd de mémoire. L'international. Et on n'est pas les premiers à évoquer ce chant et essayer, avec quelqu'un comme Marc Ferraud, d'en retracer l'histoire dans les archives de l'ORTF. Au 28 mai 1958, à 22h, on trouve une émission qui était présentée par Maître Maurice Garçon évoquant l'international.
Le poème, ai-je dit, avait passé inaperçu. Pourtant, la chanson qui comporte 6 couplets contenait en raccourci l'essentiel de tout ce qui constituait le programme des aspirations du prolétariat.
Alors, dans quelles conditions s'écrit ce texte et s'écrit cette musique ?
Ben, écoutez, elle s'écrit parce que la Marseillaise, au XIXe siècle, avait perdu sa signification. La Marseillaise était un chant révolutionnaire. Mais petit à petit, elle est devenue un chant de la victoire. Les victoires de Napoléon. Et puis un chant de la nation, donc un chant patriotique. Et même, on peut dire qu'au XIXe siècle, sous Louis-Philippe, on a dressé une statue à Rouget de Lille. Or, Louis-Philippe, c'est pas exactement l'incarnation de la Révolution française. Donc, si vous voulez, l'esprit révolutionnaire ne disposait plus de sa Marseillaise. Alors, les révolutionnaires, ou les gens qu'on appellerait aujourd'hui de gauche, ou les qui luttaient contre le patronat, qui luttaient contre la monarchie, qui luttaient contre l'oppression, ils chantaient autre chose. Ils chantaient « Ça ira, ça ira », ou ils chantaient « La Carmagnole », vous voyez, ils chantaient des choses comme ça. Et ils n'avaient pas d'hymne vraiment révolutionnaire, jusqu'au moment où Potier a rédigé cet international, n'est-ce pas, dont on a eu connaissance très tard, seulement en 71, c'est-à-dire au moment de la Commune de Paris.
Alors, c'est pendant la Commune que le peuple s'approprie l'international et chante l'international.
S'approprie, c'est peut-être pas le mot, qu'il l'adopte et qu'il la trouve un hymne fantastique. Encore que j'ose pas employer le mot d'hymne parce qu'il n'y avait pas de musique à l'époque. Il y avait que les paroles. Alors les paroles étaient très belles, mais les paroles sans musique, ça passe pas. Alors les gens continuaient à chanter la Carmagnole, vous voyez, pour ne pas chanter la Marseillaise, qui avait perdu son sens. Et ils avaient ce texte, mais il n'y avait pas de musique. Donc on ne chantait pas encore l'international, on l'a chanté plus tard, vers 1880.
C'est l'allée.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. On s'adresse à qui? Quel forçat?
Eh ben, on s'adresse, c'est écrit en vers 71, on s'adresse aux ouvriers qui travaillent dans les mines. On s'adresse aux enfants qui travaillent à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui font 10, 12 heures par jour. C'est à eux que s'adresse l'international. D'ailleurs, Potier, lui-même, est un homme qui lutte pour la justice sociale. C'est un artisan, n'est-ce pas? C'est donc un homme qui travaille de ses mains et qui, d'une certaine façon, voit la condition déplorable des travailleurs. C'est dans cet esprit qu'il écrit.
Alors, il y a cette phrase qui fera fortune, « Du passé, faisons table rase ». Cette phrase a été reprise de tous les côtés. Comme historien, vous ne pouvez pas rester inerte face à une phrase pareille.
Alors, « Du passé, faisons table rase », c'est-à-dire « Changeons tout ». C'est un peu le cri des anarchistes, le cri qu'ils émettront plus tard. Mais cette phrase « Du passé, faisons table rase », moi, personnellement, je la conteste comme historien, parce qu'on ne fait pas table rase du passé. Le passé surgit toujours à un moment ou à un autre. Ça veut dire que ce qui a été refoulé, ce qui a été étouffé, ce qui a été oublié, revient à la surface par la mémoire des familles, la mémoire des professions, la mémoire sociale.
Et debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Et du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteur, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le vol rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre force. Battons le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain.
Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Et là on se dit, mais attends, Lénine a chanté l'international.
Oui,
ni Dieu, ni César, ni tribun, les tyrans, les Césars rouges et les autres ont chanté ou ont entendu chanter ce couplet.
Mais ils se prennent pas pour des tyrans.
Ils se prenaient pas pour des tyrans.
Non, ils se prennent pour l'expression de la classe ouvrière ou du prolétariat ou de la nation. Il en vient pas à l'idée qu'ils sont tyrans.
Castro fait chanter l'international.
Castro n'était pas communiste. Castro est devenu communiste. Castro, c'est un bourgeois catholique, indigné des drames que connaît la population cubaine, n'est-ce pas? Et qui se révolte contre la mafia cubaine, contre la prostitution, contre tout ce qui se passait, et qui, peu à peu, glisse vers une forme de socialisme communiste, marxiste, terroriste, à cause du blocus des États-Unis, de l'aide que lui apporte la Russie, et qui s'identifie peu à peu à l'extrême gauche. Mais au début de Castro, au moment de ses débuts, on vend aussi bien les textes catholiques que les textes marxistes en 59, 60, 61, 62. C'est plus tard qu'il va devenir plus radical.
Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión.
Le quatrième couplet formulait une revendication pour établir une meilleure distribution des richesses. Le cinquième exprimait la haine de la guerre. Et le sixième, l'établissement d'un ordre nouveau.
Ouvriers, paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, loisifir, loger ailleurs. Combien de nos chers se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. Que c'est la lutte finale.
Mais l'esprit dans lequel Pottier écrit ça, c'est quoi? C'est un esprit socialiste, comme on pouvait l'entendre à l'époque, ou c'est plutôt anarch? C'est dans quel esprit sommes-nous? Est-ce qu'il appartient à ceux qu'on a appelés ensuite les socialistes de l'utopie?
Mais, vous savez, aujourd'hui on fait la distinction entre le socialisme dit scientifique, le marxisme, le socialisme dit utopique, mettons Proudhon, et puis les anarchistes qui veulent détruire toutes les formes d'autorité. Bon, à l'époque, disons que on faisait pas des différences aussi nettes entre ces idéologies, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on les fait parce que les socialistes et les communistes ont surtout combattu l'oppression économique, dont ils font l'origine de l'oppression politique. Alors que les anarchistes ont été beaucoup plus loin parce qu'ils ont combattu l'oppression dans la famille, n'est-ce pas ? L'oppression de personnelle. Toutes les autorités. Alors que les socialistes ne condamnaient pas toutes les autorités, puisque eux-mêmes entendaient exercer l'autorité. Et c'est ce que les anarchistes leur reprochaient. Alors, Pottier, si vous voulez, est adopté par tout le monde, puisqu'il va y avoir une version anarchiste de l'international, où il n'y a que deux, trois mots qui changent, finalement, n'est-ce pas? Les anarchistes, les socialistes, les communistes, tout le monde a adopté cet hymne, et simplement, comme vous le savez, les socialistes et les communistes se le sont arrachés.
En mai 1936, la foule chante l'international et acclame Léon Blum, le socialiste Léon Blum. 62 ans après, nous voilà dans les couloirs de l'Assemblée nationale avec Anne pour demander à nos élus d'aujourd'hui ce que l'international représente pour eux.
Dans ma jeunesse, je l'ai beaucoup chanté. Donc je le connais effectivement très bien. Je connais pas tous les couplets, mais je le connais effectivement bien. C'est un chant qui fait partie intégrante de notre histoire, de l'histoire du mouvement ouvrier français et du mouvement populaire français. J'ai personnellement beaucoup d'affection pour ce chant, bien qu'étant un élu de l'opposition, mais j'ai été dans ma jeunesse au Parti communiste français, bien que élu UDF aujourd'hui. Alors je le connais forcément bien. Ouais. Et je ne renie pas ce passé qui m'a construit.
Il vous arrive de le chanter encore ?
Ah oui, dans les fins de banquet, dans les fins de repas, en famille, ou pour des choses comme ça, bien sûr. pour moi, ce chant est chargé de beaucoup de souvenirs de fin de manifestations lycéennes ou étudiantes. Donc,
Maurice Leroy, je crois que si on n'est pas révolutionnaire UDF.
À 16 ou 18 ans, je ne sais pas à quel âge on commence à l'être. Oui. Donc je pourrais vous commencer en disant « Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la fin du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Nous ne sommes rien, soyons tout, c'est assez magnifique, merveilleux. Je pense qu'il faut un idéal dans la vie, pour la jeunesse.
Mais il y a quand même des strophes un peu dures envers les possédants, appelons ça.
Attendez, oui, bien sûr, mais attendez, ça a été écrit à quelle époque, l'International ? Bien, c'était une époque qui était quand même hard et difficile. Mmh. Pour les gens qui vivaient du fruit de leur travail et de leur labeur uniquement. Donc, bon, c'est pas... je crois que ça fait partie maintenant de la poésie française, hein, enfin, comme Aragon.
Mais est-ce qu'il vous arrive de chanter cet air devant vos amis vos actuels amis politiques ?
Eh bien, c'est surtout devant eux, pour vous confesser, que je le chante.
Pourquoi ?
Parce que je crois que je demeure un rebelle.
Est-ce que vous l'avez appris à vos enfants ?
Ah, attendez, non, je suis pas quand même dans l'endoctrinement. Ils auront bien le temps, d'ailleurs, peut-être que je n'aurai pas besoin de la leur apprendre, par esprit de révolte, peut-être qu'ils la chanteront. Je crois que c'est pas tellement l'international, la génération d'aujourd'hui, c'est le fameux tous ensemble que reprennent d'ailleurs les lycéens aujourd'hui dans la rue.
Tous ensemble aujourd'hui, groupons-nous. Et demain, hier, Maurice Leroy, qui est député UDF du Loir-et-Cher, ex-communiste, demeure un rebelle. Voyons ce que dit un communiste d'aujourd'hui, Patrick Braouzet, qui est député et maire de Saint-Denis, quand on évoque devant lui l'international.
Écoutez, moi je ne la connais pas complètement. Je connais le refrain. Et puis, je ne sais même pas dire si je connais bien les couplets. Moi je suis un communiste tardif, qui n'a pas été élevé au biberon révolutionnaire, et donc j'ai une grosse lacune. J'étais plutôt marqué rock'n'roll, alors bon.
Vous voulez bien vous présenter, justement ?
Patrick Braouzec, maire de Saint-Denis. Alors c'est d'autant plus un geste anti-culturel que de Jeter est né à Saint-Denis, qu'il a passé une partie de sa vie, qu'on a un square de Jeter à Saint-Denis, que l'original du texte international est au musée de Saint-Denis. Enfin bon, donc j'ai aucune excuse pour ne pas le connaître par cœur. Et à la place de l'immeuble où est né Pierre de Jeter, eh bien, il y a maintenant un foyer de personnes âgées. Et sur ce foyer de personnes âgées, il y a une plaque qui commémore la naissance de Pierre de Jeter à Saint-Denis. J'aime pas trop, moi, les chants, comment dirais-je, les chants qui ont un côté de rassemblement collectif, qui peuvent être un peu fanatiques, ou en tout cas qui font abstraction de l'individu, de la personnalité individuelle. J'ai quand même un souvenir particulier qui est la manif du... Ça doit être du 13 mai, je crois, il me semble bien, 13 mai 68, où on était place de la République, on attendait, on piétinait, puisqu'il y avait des dizaines de milliers de personnes, et on a chanté à plusieurs reprises le refrain international. C'est la lutte finale, non, non, fait des deux, c'est validé demain.
Court, très très court, hein, Braouzec, là, voyons voir la suite, un autre élu.
Alors, je m'appelle Noël Mamère, je suis député vert de la Gironde. Je la connais assez mal parce que j'ai été éduqué dans un milieu de droite où chanter l'international était une forme de sacrilège. Donc j'ai pu l'apprendre ou l'entendre dans ma vie après. Je ne me suis jamais reconnu réellement dans l'international, qui pour moi était le symbole de certains régimes que je combattais. Donc je trouve que c'est un chant qui devrait retrouver et débarrasser de ses pesanteurs idéologiques une certaine vertu. L'État comprime et la loi triche, dit la chanson. Non, je ne suis pas d'accord, la loi ne triche pas forcément. Nul devoir de s'imposer aux riches. Oui, c'est vrai qu'il y a des riches qui ont le sentiment que tout tout leur est permis. Il n'y a pas que les riches d'ailleurs, il y a aussi des hommes politiques qui pensent que l'impunité est la règle. Je suis un adepte de cette phrase selon laquelle un peuple sans mémoire est un peuple qui meurt. Donc je suis pour le respect de la mémoire, quelle qu'elle soit. Ouais.
Est-ce que pour vous ce chant est associé à quelque chose de particulier dans votre propre histoire ?
Il se trouve que je suis maire de Bègles depuis 1989, que la mairie de Bègles a été communiste pendant 30 ans et qu'avec une autre partie de la gauche, c'est-à-dire les socialistes et une partie de la société civile, j'ai battu les communistes en 1989. Et donc, le moyen pour eux, c'est amusant, de s'identifier ou de montrer leur force, c'était de chanter l'International. À chaque soir d'élection, dans le hall de la mairie, chanter l'International. Puis un jour, ils ont changé, ils ont commencé à chanter la Marseillaise.
On vient à l'histoire de l'International dans cette émission, cette archive de 1958, mai 1958, Maître Maurice Garçon.
On peut dire qu'en 1887, lorsque mourut Potier, personne ne connaissait cette chanson. Il n'y fut faite aucune allusion dans les discours prononcés à ses obsèques. Et au surplus, elle avait été publiée mais jamais chantée, car Potier n'avait pas indiqué d'air pour accompagner ses paroles. Ce n'est que l'année suivante, en 1888, que fut fondée à Lille sous le titre « La lyre des travailleurs », une chorale organisée par Gustave Delory, le futur maire de Lille et futur député du Nord. Et dans cette chorale se trouvait un ouvrier d'usine, Pierre de Jeter, né en 1848, qui était un amateur de musique et qui avait, en dehors de ses heures de travail, suivi les cours du conservatoire de Lille pendant 4 ans. Même il avait obtenu un premier prix. Il jouait de la basse et du saxophone, il chantait le soir comme choriste au théâtre, et entre-temps, il composait des mélodies. Pierre de Jeter avait un frère, Adolphe, qui avait une assez jolie voix de baryton, et avec un beau-frère, qui était simplement fort des épaules et des reins, pendant la période de chômage, pendant les grèves, pendant les périodes électorales, les trois hommes donnaient des concerts dans la rue. Le beau-frère, l'homme fort, tirait une charrette sur lequel on avait hissé un harmonium. Pierre de Jeter jouait de l'harmonium et Adolphe chantait. Et c'est ainsi que, pour meubler le répertoire de la lyre des travailleurs, le futur député Delory remit à Pierre de Jeter le livre des chants révolutionnaires de Potier en lui demandant de mettre quelques chants en musique. De Jeter trouva dans le livre le poème de l'International et il créa alors l'air si connu aujourd'hui. enthousiasmés, les membres de la Lyre des Travailleurs décidèrent d'éditer la chanson à 6000 exemplaires. Mais pour ne pas compromettre l'auteur de la musique, qui était un ouvrier, et indisposer contre lui son patron, on décida de supprimer le prénom et on écrivit « Paroles de Potier, musique de De Getter ». Plusieurs éditions parurent dans les mêmes conditions en 1894 et en 1896. Cependant, l'international faisait son chemin. Chanté pour la première fois à Lille en 1888, elle demeura passer longtemps dans les centres des ouvriers du Nord. En 1894, une édition parue à Cambrai fut poursuivie pour provocation au meurtre et excitation de militaires à la désobéissance, et l'éditeur Gosselin fut condamné à 1 an de prison.
Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crossons l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros. Ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux.
Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées. Crossons l'air et rompons les rangs.
Alors ça va disparaître. Parce que, à partir de 1870 jusqu'en 1914, avec la perte de l'Alsace-Lorraine en France, le sentiment patriotique va s'épanouir et va devenir exaspéré. Et le patriotisme-nationalisme va prendre la place de l'internationalisme. La preuve, c'est que tout le monde a fait la guerre de 14. Il n'y a pas eu de déserteur.
On dit qu'en 1917, au Chemin des Dames, on a chanté la chanson de Craon, mais on a chanté aussi l'international.
Oui, on dit qu'on a chanté l'international, c'est vraisemblable.
Est-ce qu'on a chanté ce refrain, celui-là? Parce que c'est quand même costaud. Oui. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, on parle des généraux, oui. Ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux.
Vous savez, il y a un malentendu sur les mutineries de 1917, n'est-ce pas? On veut faire de ces mutineries des manifestations pacifistes, auquel cas ces strophes s'appliqueraient aux mutineries. Mais les mutineries de 1917, c'était pas des mutineries pacifistes, du moins en France. En France, c'était des manifestations contre... non pas contre la guerre, mais contre la façon dont on faisait la guerre. Contre les offensives inutiles, contre les morts pour rien. Mais on ne contestait pas la légitimité du combat. Les soldats, si on avait mené des offensives utiles et propres, pour rien au monde, n'y auraient pas participé. En Russie, c'est différent. N'est-ce pas ? En Russie, les mutineries de 1917 participent un peu à l'internationalisme et beaucoup au pacifisme. C'est tout à fait différent. Mais en Russie, on chante pas l'international, on chante la Marseillaise.
Alors évidemment, la Marseillaise et l'international ont l'air d'être deux hymnes tout à fait inconciliables. La Marseillaise, elle aussi, a eu des significations, c'est ce que nous dit Marc Ferraud, tout à fait différentes de révolutionnaires. Elle est devenue parfois le symbole national, pour pas dire nationaliste, pour redevenir parfois un hymne révolutionnaire. Et c'est un peu ce qui se passe avec l'international, partie du cœur même du peuple français, du peuple ouvrier et paysan de ce pays. Elle a pu devenir cette énormité pompeuse, telle qu'on l'a entendue dans des interprétations des chœurs de l'armée rouge, par exemple. Mais on peut tout à fait s'amuser à mêler les deux thèmes. On peut très bien transporter les paroles de l'un à l'autre. On peut très bien faire passer les paroles de la Marseillaise sur l'international et l'international sur la Marseillaise. On a un document, si on le retrouve, je vous le passerai tout à l'heure, et c'est très rigolo. On retrouve nos invités.
En 1896, un congrès à Lille du Parti ouvrier amena des délégués de France et de l'étranger. On les accueillit avec l'international, et c'est ainsi que l'air sortit de la région du Nord et se répandit.
À partir de quand arrive la musique ?
Oh, dans les années 80. Alors, dans les années 80, la Fédération de Lille du Parti Socialiste approuve, aime ses paroles, n'est-ce pas ? L'auteur Potier a eu un prix, et on demande à quelqu'un s'il veut mettre ça en musique, il le met, c'est Degetter qu'il fait chanter par son frère Adolphe. Et à partir de là, alors là, c'est une traînée de poudre, le chant et sa musique font le tour du monde. Ça a eu un succès immédiat et général. Tout le monde l'a voulu, cette chanson.
Alors tout le monde le prend,
oui,
tout le monde le...
Tous les ouvriers du monde entier, tous les partis socialistes, après 1920, tous les partis communistes. Je veux dire que cet hymne va avoir un succès fantastique. Comme aucun dans l'histoire.
La Libération, c'est pas, on chante la Marseillaise à la Libération.
Absolument, oui, absolument. La Libération, on chante la Marseillaise, c'est plus qu'on chante d'autres.
Oui, bien sûr. Et alors, en 68, nous revoilà, oui, en train de bredouiller l'international.
Alors là, on chante à nouveau l'international, parce qu'à nouveau, la Marseillaise est devenue un hymne officiel. Chaque fois que la Marseillaise est un hymne officiel, les jeunes ou les plus vieux rechantent l'international. Chaque fois qu'on proteste, on chante l'international. Et moi, j'ai été frappé qu'au moment des grandes grèves de 95, on a chanté à nouveau l'international. Oui, oui. Qu'on n'avait pas chanté depuis, alors que l'URSS était tombée, qu'il n'y avait plus de communisme. Mais l'international, c'est vraiment le chant qui explose lorsqu'on en a plein le cœur et qu'on veut dire qu'on a espoir qu'on va enfin faire quelque chose de nouveau.
C'était une nouvelle diffusion de l'International, reportage d'Anne Rioux. Merci à Marc Ferraud. Un rendez-vous à noter ce dimanche 1er mai à Paris, la May Day Parade, intermittent et précaire, agir ou disparaître. Rendez-vous à 10h30, place du Châtelet, et concert à 20h, place de la République. Pour plus d'infos sur cette action, le site www.cip-idf.org. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. La technique aujourd'hui, c'était Antoine Viossa, Michel Thomas, l'équipe de Là-bas si j'y suis, Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et le chef répondeur Christophe Imbert. Le répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37 et pour écrire à Daniel Mermet, le mail daniel.mermet@radiofrance.com.